Nous prions. Seigneur, nous voici à nouveau réunis, sans doute pour la plupart d'entre nous, après de belles vacances d'été. Pendant ces vacances, nous t'avons cherché, trouvé, ou un peu délaissé, chacun saura te le dire. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour t'écouter. Ouvre nos oreilles et nos cœurs à la parole que nous allons entendre et inspire notre pasteur Linda qu'elle trouve les bons mots pour nourrir nos esprits et nos cœurs qui ont soif de toi et de ton amour. Amen. Notre première lecture se trouve dans le livre du prophète Jérémie qui a vécu au 7e siècle avant Jésus-Christ. Nous lisons dans Jérémie au chapitre 7, les versets 1 à 7 et le verset 23. Voici la parole adressée à Jérémie par l'Éternel. Tiens-toi à la porte de la maison de l'Éternel et là tu proclameras cette parole. Tu diras, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous judéens, vous qui entrez par ces portes pour adorer l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Corrigez votre conduite et votre manière d'agir, et je vous laisserai habiter ici. Ne vous fiez pas aux paroles trompeuses qui répètent « C'est ici qu'est le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, et encore le temple de l'Éternel. » Si vraiment vous corrigez votre conduite et votre manière d'agir, si vraiment vous faites justice aux uns et aux autres, si vous n'exploitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne versez pas le sang innocent dans cet endroit, et si vous ne vous tournez pas vers d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai habiter ici, dans ce pays que j'ai donné à vos ancêtres depuis toujours et pour toujours. Voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu. Et vous, mon peuple, marchez dans toutes les voies que je vous prescris afin d'être heureux.
Notre deuxième lecture se trouve dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12. Au chapitre précédent, l'auteur parle de la foi des anciens. Ces héros dans les Écritures nous rapportent le témoignage de fidélité dans la foi. Abraham, Moïse, l'Israélite, Rahab, Gédéon, David, Samuel, etc. et tous les anonymes. Il les appelle la nuée des témoins. Nous lisons dans Hébreux 12, les versets 1 à 7 et les versets 11. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché. Et vous avez oublié l'encouragement qui vous est adressé comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. supportez la correction. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas? Certes, au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie. Mais elle produit plus tard chez ceux qu'elle a ainsi exercé un fruit porteur de paix, la justice. Notre dernière lecture se trouve dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 13, les versets 10 à 17. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Or, il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressait la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il posa les mains sur elle. Immédiatement, elle se redressa et elle se mit à célébrer la gloire de Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait fait une guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répondit en ces termes, « Hypocrite, le jour du sabbat, chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener à boire ? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait attachée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ?» Ces paroles remplirent de honte tous ses adversaires et la foule entière se réjouissait de toutes les merveilles qu'il faisait. Seigneur, sanctifie-nous par la vérité, ta parole est la vérité. Amen.
Aujourd'hui, frères et sœurs, je vais prêcher sur le passage du chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux que nous avons entendu. Je vais me concentrer sur les 3 premiers versets que je vais commencer par vous relire. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Fin de la lecture. Alors aujourd'hui, nous allons parler de persévérance. La persévérance, il nous faut d'abord essayer de cerner de quoi on parle. Le mot grec qui dit persévérance dit aussi la même chose que le terme endurance. Donc, ce qu'on va dire aujourd'hui, vous pouvez transposer persévérance et endurance, c'est la même notion. C'est l'idée de pouvoir résister, de tenir bon. Parce que être chrétien, frères et sœurs, certains hélas le savent, d'autres pas encore, être chrétien, ce n'est pas une jolie promenade au milieu des fleurs. Disons que ce n'est pas seulement ça. C'est aussi, parfois, des longues marches dans des vallées arides et sèches, pleines de bêtes sauvages. Je vous renvoie au psaume 23, ce psaume magnifique que beaucoup connaissent par cœur, du moins des passages, qui est en fait un psaume. Essayez de le relire en y voyant le chemin d'une vie humaine. Quand je marcherai dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec toi. Ça, c'est les moments difficiles, quand la vallée de l'ombre de la mort est là. Mais il commence par « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles, les jolies fleurs, l'eau qui coule, des pâturages verdoyants. » Aujourd'hui, nous prenons en charge cette question de cette vallée de l'ombre de la mort quand elle frappe. Et la capacité qu'on a en tant que chrétien de résister, de tenir bon, de mener ce chemin contre l'épreuve. Alors l'épreuve qui peut être entendue dans notre texte, dans son sens sportif, hein, on parle d'une épreuve de foot, une épreuve de marathon, il y a là le sens d'endurance, on voit tout de suite l'image, mais il est aussi traduit ailleurs par combat. Parfois la vie est un combat, et en tout cas, notre vie chrétienne, nous ne pouvons pas la vivre sans avoir compris la dimension du combat spirituel. Il y a un combat que nous menons contre des forces invisibles. Disons-le tout de suite, une vie sans épreuve, ça n'existe pas. Je suis désolée pour les plus jeunes de casser peut-être un mythe du bonheur parfait. Une vie sans épreuve, ça n'existe pas, et je l'ai compris, moi, humblement, j'avais autour de 20 ans, j'étais jeune étudiante, j'étais arrivée à Toulouse, j'avais rejoint un groupe de jeunes de cette église, et dans ce groupe de jeunes, il y avait un jeune homme qui avait l'âge, qui avait une quinzaine d'années de plus que moi, mais le modèle parfait, intelligent, brillant, sympa, croyant, sportif, musicien, tout. Et je m'étais rendu compte qu'il avait une famille, qu'il vivait dans une famille parfaite. Pareil, étudiant, enfin brillant, musicien, parlait je ne sais pas combien de langues. Et j'étais là, Seigneur, moi qui, à ce moment-là, dans ma vie familiale, on traversait pas mal de choses difficiles. Je disais, Seigneur, ouais, tu distribues vraiment comme tu veux tes grâces. Eh bien, quelques mois après, cette famille a été frappée par une épreuve terrible. Le plus jeune des frères a été emporté en quelques mois par un cancer qui sortait de nulle part. Et j'ai vu vraiment, notamment cet ami modèle, changer et trouver plus de profondeur dans sa foi. Enfin, juste un exemple qui m'est revenu en méditant ce texte, en me disant « Une vie sans épreuve n'existe pas. Et ne fantasmons jamais sur des vies qui seraient, à nos yeux, épargnées alors que nous sommes en train de ramer ou dans le combat. Personne n'est épargné. Alors cette épreuve, elle revêt pour chacun différents visages selon nos contextes, selon nos trajectoires de vie. Elle peut revêtir le visage de la maladie physique, la maladie psychique, pour nous-mêmes ou pour un proche. Le texte qu'on a lu dans l'évangile de Luc nous en parle. Cette femme courbée, paralysée depuis 18 ans, longue épreuve. Elle doit pouvoir en dire quelque chose de la persévérance, cette femme. L'épreuve peut prendre le visage du chômage qui dure, prendre le visage d'un mariage difficile. Il y a, parfois, une dimension d'épreuve dans le mariage. Parfois, ça se finit par un divorce qui est encore une épreuve. Vous voyez, toute souffrance est une épreuve. Alors, il y a que nos souffrances, que nos épreuves à nous, dans nos contextes, ne nous fassent pas oublier qu'il y a des épreuves aussi plus proches de ce que le texte biblique nous parle. C'est vraiment l'épreuve de la persécution pour sa foi. Et ne pensons pas que c'est relégué à des temps bibliques, parce que j'ai re-regardé les chiffres de l'ONG Portes Ouvertes, qui est un petit peu la référence pour ce qui concerne le travail pour soutenir les chrétiens persécutés dans le monde. En janvier 2024, donc il y a déjà plus d'un an, Portes Ouvertes nous dit que les chiffres donnent que dans le monde, il y a un chrétien sur sept qui est persécuté. Ça représente 365 millions de personnes. Rendez-vous compte, c'est à peu près 40 fois la population de la Suisse. Ce sont des frères, des sœurs dans la foi qui sont persécutés. Et je pense que le critère de persécution est assez élevé. Ce n'est pas juste parce qu'on vous a un petit peu insulté dans la rue que ça fait de vous un chrétien persécuté. Alors c'est assez édifiant de voir, je ne sais pas si vous connaissez ces chiffres, ces statistiques, ces réalités, mais un chrétien sur cinq persécuté vit en Afrique. N'oublions pas dans nos prières les frères et sœurs en Afrique, victimes essentiellement du djihadisme, pour la plupart au Nigeria. Le Nigeria serait aujourd'hui le pays un petit peu le pire pour les chrétiens d'Afrique. Mais en termes de réalité de persécution, c'est-à-dire être amené au point de ne pas pouvoir dire qu'on est chrétien, donc vivre sa foi totalement souterrain, c'est la Corée du Nord qui serait au top. Difficile en Corée du Nord de simplement afficher qu'on est chrétien, d'où doit se vivre dans le secret. Et puis, on apprend que parmi les chrétiens persécutés, certains sont emprisonnés pour leur foi, et le pays qui a la palme pour cela, c'est l'Inde. Alors pensons à nos frères et sœurs aussi en Inde, en Corée, voyez. Donc quand nous sommes face à l'épreuve, pensons aussi aux épreuves de la foi, pour la foi, disons. Alors la persévérance, c'est ce pouvoir de résister, de rester fidèle dans la foi, jusqu'à la mort, s'il le faut. Il y a dans l'idée de persévérance la notion d'endurance aussi, le fait d'endurer des souffrances, de les supporter, les souffrances et les coups. Et je vous lis un extrait de Romains 5, où l'apôtre Paul nous dit « Nous mettons notre fierté dans les détresses, sachant que la détresse produit la persévérance une fidélité éprouvée, et une fidélité éprouvée, l'espérance. » Voyez Paul, qui va même jusqu'à dire « Nous mettons notre fierté dans la détresse parce qu'elle produit la persévérance. » Et j'aime beaucoup une notion qu'on retrouve dans les Écritures, dans le Nouveau Testament particulièrement, qui est celle de persévérance de l'espérance. La persévérance de l'espérance. Et je vous lis juste cet extrait dans 1 Thessaloniciens, premier chapitre. Au tout début de l'épître, l'apôtre dit qu'il pense à cette église de Thessalonique et il dit continuellement « Nous nous souvenons de tout ce qui vous caractérise, l'œuvre de la foi, le travail de l'amour et la persévérance de l'espérance de notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu, notre Père. » On peut persévérer d'espérance. Alors maintenant, qu'est-ce qui l'a nourri, cette persévérance, selon notre texte de ce matin? Parce que c'est un sujet immense dans la Bible, mais de ce que nous disons dans les Hébreux, dans l'Épître aux Hébreux, qu'est-ce qui encourage cette persévérance? De quoi est-ce que ce matin nous allons nous nourrir et encourager notre foi? Alors il y a trois choses, en tout cas moi je lis trois choses. Il y a d'abord le fait, l'existence de cette grande nuée de témoins. Alors, frères et sœurs, je trouve qu'on est propulsés dans tout ce qui nous précède, de ses frères et sœurs dans la foi, de ses ancêtres, de ses héros qui nous ont précédés sur le chemin et qui nous fait dire que nous ne sommes jamais seuls. Ce sont les héros bibliques de la foi, mais pas que. On va voir tout à l'heure que c'est pas que. Alors, aujourd'hui, je suis frappée de voir que notre monde cherche des influenceurs, des gens qui les inspirent, qui les guident. Mais on a tout, là. Est-ce qu'on peut relire la vie d'un Abraham qui a suivi Dieu alors qu'il ne savait même pas où il allait, qui ne connaissait même pas vraiment Dieu, qui ensuite était prêt à sacrifier son fils unique parce que Dieu lui demande, quelle foi ? Ou d'une Sarah qui était vieille, ridée, ménopausée, moquée parce que stérile et qui croit l'incroyable qu'elle va être maman et il lui est donné d'avoir un fils. Mais je veux dire, c'est un peu pâle ce qu'on peut aujourd'hui à côté voir, écouter, entendre de nos influenceurs qui ont des je sais pas combien de milliers de followers là sur les réseaux. Réveillons-nous, lisons, je vais vous lire un extrait d'ailleurs de ce chapitre 11. Alors je vous invite vraiment, s'il vous plaît, quand vous retournerez chez vous dans la semaine, reprenez Hébreux 11 et lisez ce chapitre extraordinaire. Ça va vous booster. Je vous lis juste trois versets vers la fin de ce chapitre. Donc l'auteur cite, fait un petit peu un catalogue et puis il dit, mais... que dirais-je encore ? Le temps me manquerait pour parler de Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel, ainsi que des prophètes. Grâce à la foi, ils vainquirent des royaumes, pratiquèrent la justice et obtinrent ce que Dieu avait promis. Ils fermèrent la gueule des lions, éteignirent des feux violents, échappèrent à la mort par l'épée. Ils étaient faibles et devinrent forts. Ils furent redoutables à la guerre et repoussèrent des armées étrangères, etc. Pas mal, hein ? Cette nuée de témoins, c'est important aussi. Aujourd'hui, on est un peu plus avancé dans le temps et dans l'histoire qu'au moment où l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit. C'est important pour nous d'y voir aussi ce qu'on appelle l'Église universelle. Cette Église universelle, c'est l'Église, la communauté de tous les croyants, dans le temps et dans l'espace. Donc c'est l'Église internationale, mais qui rassemble aussi ceux qui sont déjà morts et qui nous ont précédés. Et ce qui est très beau, c'est que l'auteur dit « Puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, n'oublions jamais que nous sommes entourés de frères et sœurs dans des réalités que nous ne voyons pas ici, qui eux aussi vivent leur foi et parfois prient pour nous. » Et je vais vous donner un témoignage qui date de hier soir, au moment où je commençais à préparer cette prédication. Paf, je vérifie mes emails et je vois un mail qui est dans les spams parce que le nom était un peu exotique. Je vais voir et il s'agissait d'un mail d'un étudiant de Beaucé de la volée d'il y a 2 ans, 2023-2024. Shamaoun, un étudiant du Pakistan dont je me souviens bien et qui m'envoie un mail, mais sans raison, juste pour me dire, il devait penser à moi, tout ce que cette année, ce semestre à Beaucé lui avait apporté. Il vous adresse ses salutations à cette église qu'il a frappée par son hospitalité. Et il m'encourage, il est lui-même pasteur, en disant « J'ai été frappée par la dimension d'hospitalité de ton ministère, notamment quand on a passé Noël chez vous, nous qui étions seuls, etc. » Je regarde Raymond, où es-tu Raymond ? On avait passé ce beau Noël avec ses étudiants. Et je me suis dit, mais voilà, j'étais en train de réfléchir à la notion d'église universelle. Et voilà que j'ai un coucou du Pakistan, quelqu'un que je ne reverrai probablement jamais, qui me dit, ben, ce que j'ai vécu là, pour moi, c'est vraiment l'évangile de Jésus-Christ. Probablement que, peut-être qu'il traverse un moment difficile, que ça l'encourage, que sais-je ? nous avons pu inspirer un frère au Pakistan. Alléluia! Nous faisons partie de cette Église universelle. Voilà, nous sommes, nous, dans cette Église locale qui est nécessaire. Mais n'oublions jamais cette dimension plus grande que nous, dans le temps et dans l'espace. C'est un encouragement pour nous, et nous le sommes aussi pour d'autres. Et cette Église universelle nous ramène à la notion de communion des saints, qui est particulièrement chère aux luthériens. Cette communion, c'est comment concrètement nous vivons les liens, les relations, les partages avec ses frères et sœurs. Et je crois que, notamment avec ces étudiants de l'Institut œcuménique de Beaucé, nous pouvons en toucher quelque chose. On a cette grâce dans la paroisse de pouvoir, année après année, les rencontrer, entendre des témoignages. Certains vivent des persécutions. Nous connecter à cette Église mondiale, universelle. Deuxième chose, la grande nuée des témoins, donc première. La deuxième, pour nous encourager dans cette persévérance, l'auteur nous dit de nous débarrasser de tout fardeau. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Alors là, il nous faut l'image du sportif. Je ne pense pas que, à part peut-être certains sports où c'est requis, le sumo ou l'obésité est un élément favorisant la performance sportive. Hein. On voit que c'est quand même lesté de choses superflues et alourdissantes pour courir la course de la victoire. Alors, voilà, je pense que l'image est claire. Rejetons tout fardeau, spiritualisons la chose. Qu'est-ce qui est fardeau dans nos vies? Il y a une notion de discipline. On n'arrive pas, je ne sais plus quelle célébrité avait été félicitée sur son physique et puis dit, mais vous croyez que ça vient tout seul? C'est au prix d'efforts. Donc, dans la vie spirituelle aussi, nous sommes appelés à avoir cette discipline de nous délester, ce qui n'en vaut pas la peine. Ce qui est inutile, ce qui encombre, ce qui ne nous permet pas d'avancer sur cette route, de persévérer dans la foi. Et parmi ces fardeaux, il y a le péché, dont l'auteur dit qu'il nous enveloppe si facilement. On sent là quelqu'un qui a été aux prises avec le péché, qui voit avec quelle facilité nous pouvons sombrer dans tout ce qui nous sépare de Dieu, dans tout ce qui entrave notre communion avec lui, notre vie d'enfant de Dieu, aimer, pardonner dans la lumière. Comment c'est plus difficile de garder ce statut que de tomber dans les choses si facilement qui nous séduisent et nous emportent. Dieu seul sait où. Quand nous prions le Notre Père, délivre-nous du mal. Il y a ça, il y a ce combat, il y a cette volonté de lutter contre le mal qui, sans cesse, nous assaille. Alors un appel à choisir une vie dans la lumière de Dieu, une vie de sanctification, chère aux réformateurs. Luttons, il y a quelque chose d'actif dans la persévérance, luttons contre ce péché qui est une véritable entrave. Et chacun sait, dans l'intimité de Dieu, ce qu'il doit nettoyer, hein, contre quoi il doit lutter. Ayons cette simplicité devant Dieu de dire « oui ». Je sais que c'est pas bien, que c'est pas selon ta volonté. Je n'en veux plus. Et puis la troisième chose, garder les regards sur Jésus. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus. C'est beau, hein, ça me rappelle un vieux cantique probablement évangélique que j'avais connu dans les groupes bibliques universitaires. Vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux. Et les choses de la terre pâliront peu à peu si tu lèves vers Jésus les yeux. Il y a il est devant, il est là, et garder les regards sur lui, qui est notre seule véritable boussole solide, nous permettra de tenir et de persévérer quand l'épreuve dure. Pourquoi Jésus? Parce que c'est le chef de notre foi. C'est lui qui l'a fait naître. Il est dit, il fait naître la foi et il l'amène à la perfection, donc il en est à l'origine et au but. Il est l'alpha et l'oméga. Lui qui nous a donné une fois pour toutes l'assurance d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, pourquoi nous en priverions-nous ? Donc une invitation ici à nous nourrir de sa présence, à le connaître. Et là, je vous invite à le découvrir encore, plus et toujours, dans les évangiles, dans l'écriture. Qui est-il ? De quel amour il nous aime ? De quelle foi il a vaincu le péché ? De quelle guérison il peut nous assurer ? Voilà. Regard tourné vers Jésus, au cœur de l'épreuve. Et tout simplement, ultimement, parce qu'il mène la foi à la perfection, en ayant lui-même vaincu l'épreuve des épreuves, pour nous, par amour. Cette victoire à la croix, ça donne sens à notre propre foi. Ça donne sens à notre chemin de foi, qui n'est pas théorique, mais qui peut s'inscrire à la suite de celui qui a persévéré de façon ultime. Et puis enfin, il nous faut parler de où nous mène cette persévérance. La récompense qui est promise aux chrétiens qui persévèrent. Car oui, même si on n'aime pas trop l'idée de récompense, parce que la foi est gratuite, eh bien, l'Écriture nous le dit. Dans ce même livre des Hébreux, on lit clairement « Vous avez besoin de persévérance pour qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui a été promis. » Dieu a pour nous une promesse, et l'enjeu de notre vie, c'est de marcher dans la confiance que cette promesse s'accomplit dans la fidélité, dans la patience, dans la persévérance. La promesse du salut, la promesse de la vie éternelle, la promesse que notre vie ne va pas s'arrêter le jour où nous allons mourir biologiquement, mais qu'elle continuera bien au-delà, dans la présence glorieuse de Dieu. Ce sont des paroles de Jésus lui-même qu'il dit à ses disciples pour les encourager face à ce qui les attend, notamment les persécutions. Il leur dit, en Marc 13 et en Matthieu 10, « Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Persévérer jusqu'à la fin. Et il dit encore en Matthieu 24, des paroles qui peuvent résonner comme actuelles pour nous aujourd'hui, il leur dit « Parce que le mal se répandra, l'amour de la multitude se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Le mal se répandra, l'amour de la multitude se refroidira. Mais nous, tenons bon, restons fidèles, modestement, dans la foi. Et puis, cette promesse magnifique que nous lisons dans 2 Timothée 2, verset 12, le Seigneur nous dit, enfin l'apôtre nous dit au sujet du Seigneur, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. N'ayons pas peur de croire que nous régnerons avec lui. Il y a une vie pleine de gloire qui nous attend, mais pas de la gloire terrestre, après laquelle tout le monde court. C'est une autre gloire, récompense de ceux qui auront tenu bon. Alors, frères et sœurs, voilà mon message pour ce matin. Persévérons en pensant à cette nuée de témoins, passée, présente, lointaine, proche, cette Église universelle. Persévérons en luttant contre le péché. Et Dieu nous y aide. Persévérons en regardant vers Jésus. Toujours. Lui seul. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Une promesse un peu mystérieuse, mais qui, je suis sûre, peut nous encourager, nous faire percevoir quelque chose de la gloire à venir dont nous avons parfois des étincelles ici.